Chers amis, chers camarades, je vous souhaite la bienvenue à la fête de lutte ouvrière. Mais avant d'entamer la soirée, je voudrais dire quelques mots sur la situation actuelle du monde du travail. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la guerre est déclarée entre ceux qui créent les richesses, les travailleurs, et ceux qui les accaparent, les capitalistes. Chaque progrès du monde du travail a été obtenu au travers de combats contre ces mêmes capitalistes. Mais depuis un certain temps déjà, la classe des capitalistes est à l'offensive pour imposer recul sur recul à la classe des producteurs, la classe ouvrière. C'est que le capitalisme est en crise et les profits que la bourgeoisie n'est plus capable de réaliser en accroissant la production, elle se les procure en appauvrissant l'ensemble de ceux qui produisent les richesses, les travailleurs. Alors, bien sûr, ce n'est pas comme cela qu'on nous l'explique. C'est au nom de l'intérêt général que les travailleurs devraient serrer la ceinture pour que les actionnaires touchent des dividendes de plus en plus élevés. Car, n'est-ce pas, les profits d'aujourd'hui seraient les emplois de demain. Ce ne sont pas les capitalistes qui viennent expliquer cela à la population. Il manquerait pour cela de crédibilité ou même de compétences. Et de toute façon, quand on est riche à milliards, on a autre chose à faire que de perdre son temps à expliquer à ceux que l'on vole tous les jours pourquoi ils doivent continuer d'accepter cette escroquerie. Ce travail d'explication, il est dévolu aux hommes et aux femmes politiques de la bourgeoisie. Il réclame un certain talent de comédien et une compétence infinie dans le mensonge et l'hypocrisie. Qu'ils s'appellent Mitterrand, Chirac ou Jospin, Sarkozy, Hollande ou Macron, ils ont tous pour fonction de faire accepter à la population, avec le moindre mou possible, les exigences des détenteurs de capitaux. Et jusqu'à maintenant, ils y sont parvenus. Bien sûr, il faut changer régulièrement le personnel, car leur mensonge ne fait pas très longtemps illusion. Mais le réservoir de politiciens serviles vis-à-vis de la bourgeoisie semble sans limite. Un coup à droite, un coup à gauche, et maintenant, un coup de ni droite ni gauche. Mais la politique ne change pas. Il s'agit dans tous les cas de pressurer toujours plus les travailleurs. Dans cette guerre des possédants contre les producteurs, Macron a décidé de frapper un grand coup. Il veut nous mettre à genoux et pour cela, il a choisi de mener une bataille décisive contre les cheminots. La SNCF est un secteur de la classe ouvrière qui, jusqu'à maintenant, a su se défendre contre les attaques dont elle était l'objet. Grâce à leur combativité, grâce aussi à leur position dans un secteur, les transports, qui peut devenir très vite gênant et y compris gêner le fonctionnement de l'appareil de production, ils ont réussi à limiter la portée des coups qui leur étaient assénés. En 1995, c'est par la grève qu'ils ont obligé Juppé à reculer. Pour Macron, cette position de force relative des cheminots est une raison de plus pour s'y attaquer. S'il gagne cette bataille, il fait sauter un verrou. Et il pense qu'à partir de là, il pourra frapper sans problème sur les autres secteurs du monde du travail. C'est pourquoi la bataille engagée contre les cheminots concerne l'ensemble du monde du travail et que les travailleurs devront présenter un front commun le plus large possible pour s'opposer à cette nouvelle attaque de la bourgeoisie. Pour que son éventuelle victoire soit le plus retentissante possible, Macron a choisi d'affronter tous les syndicats en bloc. Pourtant, ça ne lui aurait pas été très difficile d'accorder quelques concessions à la direction de la CFDT afin de lui faciliter son ralliement, ce qu'elle fait en général de bonne grâce. Il s'y est refusé, ce qui a tellement secoué le dirigeant de la CFDT, Laurent Berger, que ça l'a conduit à parler avec une touchante sincérité lorsqu'il a déclaré, je cite, « Si on nous piétine, il ne faudra pas venir nous chercher pour éteindre l'incendie ». Fin de citation. Ça a au moins le mérite de la clarté. Laurent Berger nous dit qu'il ne considère pas que son rôle est d'aider les travailleurs à se défendre, il considère que son rôle est d'empêcher la propagation de l'incendie des luttes lorsque la colère des travailleurs finira par éclater. À vrai dire, il y a longtemps que les travailleurs n'ont pas beaucoup d'illusions sur ce type de dirigeant syndical. Mais ce qui est clair chez Laurent Berger existe aussi dans les autres états-majors syndicaux. En général, il s'abrite derrière l'unité syndicale pour s'aligner sur le moins-disant. En l'occurrence, les directions syndicales des cheminots ont concocté un calendrier de grève par roulement, alternant 2 jours de grève et 3 jours de travail du 23 avril au 28 juin. Du 3 avril au 28 juin. Merci. Il le justifie en parlant de grève à l'économie. Mais la grève à l'économie, c'est la grève perdue. Pour gagner dans le bras de fer qui s'engage, les cheminots ont besoin de jeter toute leur force dans la bataille. Et l'unité dont les travailleurs ont besoin, ce n'est pas l'unité avec ceux qui disent ouvertement qu'ils sont là pour calmer l'incendie. C'est l'unité qui permet aux plus conscients, aux plus combatifs des travailleurs d'entraîner les hésitants. Car ceux qui sont hésitants ne le sont que parce qu'ils craignent la défaite. Et c'est la détermination de leurs camarades de travail qui peut emporter leur adhésion à une lutte sérieuse. C'est pourquoi, si les états-majors syndicaux ne sont pas à la hauteur, nous sommes convaincus que cet obstacle peut être surmonté grâce à la combativité, à la mobilisation consciente de la fraction la plus combative des cheminots, qui a la capacité d'entraîner leurs camarades les moins décidés et qui rencontrera le soutien actif, y compris par la grève, des travailleurs des autres corporations. Car nous sommes nombreux à penser que si, aujourd'hui, ce sont les cheminots qui sont attaqués, c'est l'ensemble des travailleurs qui est visé. Macron espère qu'une victoire contre les cheminots le mettra en position de force pour réduire encore le niveau de vie de l'ensemble de la classe ouvrière. Mais à l'inverse, une défaite de Macron face aux cheminots pourrait aider à remettre la classe ouvrière en ordre de bataille pour se défendre contre les attaques qu'elle ne cesse de subir. C'est pourquoi, dans ce combat entre le patronat, le gouvernement et les cheminots, nous sommes tous des cheminots. Cette bataille s'engage à un moment où les affaires de la bourgeoisie sont florissantes. L'an passé, en 2017, les 40 entreprises du CAC 40 ont réalisé plus de 93 milliards de profits. Ce sont des chiffres tellement vertigineux qu'on préfère, pour en comprendre la portée, les traduire d'une manière plus concrète. D'abord, ils sont en augmentation de 24% par rapport à 2016. Ça, on comprend mieux quand on le compare à l'augmentation de nos salaires, incomparablement plus faible, quand elle n'a même pas été négative parfois. Mais surtout, avec tout cet argent, il y aurait de quoi verser un salaire de 1500 euros net, charges comprises, à près de 3 millions de salariés pendant un an. Ça, c'est du concret, et ça montre comment on pourrait résoudre le problème du chômage dans ce pays comme ailleurs, en prenant sur les profits des capitalistes. Au lieu de quoi, cet argent est versé pour l'essentiel en dividendes aux actionnaires. C'est ainsi que la fortune de Bernard Arnault, le propriétaire de LVMH, a pu s'accroître de 30 milliards l'an passé, faisant de ce pauvre patron français écrasé par les charges la première fortune française et la quatrième au monde. Là aussi, pour atteindre des chiffres plus familiers, il faut ramener cet accroissement de richesse à une taille humaine. En gros, chaque seconde que cet homme s'est donné du mal de respirer, près de 1000 euros supplémentaires sont tombés dans ce qui lui sert de coffre-fort. Et on explique à des salariés qui suent sang et eau pour des salaires mensuels de cet ordre qu'il faudrait qu'ils fassent encore plus d'efforts, qu'il faut continuer à réduire le personnel dans les hôpitaux et tous les services publics, que la garantie de l'emploi est un luxe qui doit définitivement disparaître, que la précarité doit devenir la règle, que les salariés retraités sont une génération dorée. Eh bien non, on n'est pas d'accord, et nous avons été des dizaines de milliers, des centaines de milliers, à se servir des manifestations des 15 et 22 mars derniers pour le dire dans la rue. Du point de vue des intérêts humains, ce système, le système capitaliste, est fou. Pendant que toutes les statistiques montrent que la richesse est en train de se concentrer entre les mains d'un nombre toujours plus réduit de gigantesques fortunes, la misère progresse dans le monde entier, y compris dans le pays le plus riche du monde, les États-Unis d'Amérique. Le journal Les Échos n'est pas un journal qu'on peut suspecter de gauchisme. C'est un journal patronal et donc qui s'adresse à un public limité, ce qui parfois lui permet de dire quelques vérités qui peuvent intéresser le commun des mortels. Dans son édition de jeudi dernier, il titrait en première page « L'effroyable délitement de la société américaine ». En lisant l'article, on y apprenait, je cite, « Les États-Unis sont la première économie du monde, mais 40 millions d'Américains vivent dans la pauvreté. La mortalité infantile est plus élevée et l'espérance de vie plus faible que dans les autres démocraties développées ». Fin de citation. Ce constat accablant provient, selon l'auteur de cet article, de la hausse continue des inégalités, et il signale, dans le même article, que la richesse captée par les 1% les plus riches est passée, ces dernières années, de 10 à 20% de la richesse totale du pays. Ces jours-ci, d'autres articles de presse ont souligné que dans certaines régions d'Angleterre, celles qui sont les plus pauvres et les plus touchées par le chômage, l'espérance de vie régressait. Et ce sont ces pays qu'on nous sert en exemple parce que l'économie serait libérée des carcans administratifs et que le chômage n'y existerait quasiment plus. C'est vrai que dans les statistiques, le chômage a disparu. Mais dans la réalité, le nombre de travailleurs sans emploi n'y a jamais été aussi élevé. L'article du journal Les Échos nous rappelle ainsi qu'à une époque où la médecine continue à faire des progrès gigantesques, on meurt de plus en plus jeunes dans les pays les plus riches de la planète. Et la situation est pire dans les pays les plus pauvres, qui sont ravagés par la misère et parfois par les guerres qui mènent les puissances impérialistes pour y imposer leur domination. C'est ce qui explique ce flot incessant de réfugiés qui tentent de traverser la Méditerranée et que tous les gouvernements des pays européens repoussent avec constance, provoquant tous les ans plusieurs milliers de noyades. Non seulement ils refusent de porter secours aux réfugiés qui risquent leur vie en mer, mais ils interdisent à des organisations humanitaires de le faire. Cette semaine, un des derniers bateaux qui venait au secours de ces réfugiés a été arraisonné par la marine italienne. Son équipage est menacé de 7 ans de prison pour, entre guillemets, trafic d'êtres humains et aide à l'immigration irrégulière. Le capitaine avait refusé de livrer à la marine libyenne les rescapés qu'il avait sauvés de la noyade. Après cela, il ne reste plus qu'un bateau humanitaire en mer pour venir au secours des migrants, quand il y en avait encore une dizaine l'an passé. Les dirigeants européens, en effet, veulent réserver à la marine militaire libyenne, qu'ils arment et qu'ils financent, le monopole de la surveillance maritime. Or, on sait que les rescapés qui sont rapatriés en Libye sont maintenus prisonniers dans des camps où les viols et les tortures sont la règle. Les dirigeants du monde occidental qui font des leçons de démocratie à la terre entière ont la pleine responsabilité de cette politique abjecte et de la catastrophe humaine qui en découle. Et il est significatif que ce soit la fraction de la population la plus modeste et non des quartiers les plus riches ou des appareils d'État. C'est donc de la population la plus modeste que viennent les gestes de solidarité vis-à-vis des réfugiés. Eh bien, nous proclamons une fois de plus que les réfugiés sont nos frères de classe, que ce pays a largement les moyens de les accueillir dignement, à condition de mettre son immense richesse au service du plus grand nombre, au lieu de la réserver à une poignée de parasites. Cette barbarie d'État est significative du pourrissement du système capitaliste. Alors que les techniques continuent à progresser, la situation s'aggrave pour la majorité de la population partout dans le monde. Ce n'est pas une fatalité. C'est le fruit d'un système économique, le capitalisme, qui est complètement dépassé. Le capitalisme a toujours été injuste. Il a toujours été fondé sur l'exploitation du travail des autres. C'est le travailleur qui crée la richesse. Le capitaliste se contente d'avancer son capital et à la fin du cycle de production, il le récupère augmenté d'une plus-value. Il est plus riche sans avoir rien fait, alors que le créateur de la richesse est toujours aussi pauvre, puisqu'on ne lui donne en général que de quoi subvenir à ses besoins. C'est ce qui explique que les capitalistes soient toujours plus riches quand l'essentiel de la classe ouvrière passe sa vie à travailler sans pouvoir réellement se mettre à l'abri des coups durs. Malgré cette injustice fondamentale, ce système a permis, pendant toute une période, l'enrichissement global de la société. Et au fil du temps, grâce à ces luttes, le niveau de vie de la classe ouvrière des pays les plus riches a pu un peu s'améliorer. Mais aujourd'hui, le capitalisme est incapable de sortir de la crise. La production stagne car le capital ne trouve pas assez de profit et que la spéculation lui offre une meilleure rentabilité. Sauf que la spéculation ne crée aucune richesse. Et donc, la seule recette, partout dans le monde, est d'appauvrir toujours plus la seule classe essentielle de la société, la classe des producteurs, la classe ouvrière. Partout, il s'agit d'être plus compétitif, c'est-à-dire de produire plus avec moins de monde et moins payé. Ils y parviennent. Mais là encore, plus leurs efforts sont couronnés de succès, moins il y a de consommateurs ayant les moyens d'acheter leurs produits, puisqu'il y a moins de travailleurs et qu'ils sont de plus en plus mal payés. N'empêche, c'est ce discours qui nous est servi tous les soirs aux journaux télévisés et en continu sur toutes les chaînes d'information. Pas de surprise, elles appartiennent toutes à des capitalistes et quand il s'agit du service dit public, eh bien ce sont les mêmes spécialistes qui nous assènent les mêmes discours. Tous ces efforts sont demandés aux travailleurs alors qu'on attend, à plus ou moins brève échéance, l'éclatement de la prochaine crise financière. Les plus lucides des hommes de la bourgeoisie le savent. Mais allez expliquer à Bernard Arnault, l'homme aux 1000 euros de gains par seconde, qu'il faut qu'il arrête de se shooter au profit. C'est impossible. Le système a sa propre logique et le premier qui décroche est fichu. Mieux vaut sombrer tous ensemble et de toute façon, les plus forts finiront par surnager. Voilà ce qui guide nos dirigeants. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord. Il existe une alternative à ce système en faillite. Il s'agit d'arrêter de produire dans le seul but d'assurer du profit aux possédants et de produire pour satisfaire les besoins de l'humanité. Cette idée n'est pas nouvelle. On l'a baptisée du nom de socialisme ou de communisme. Et ce n'est pas parce que ces idées ont été discréditées par les sociodémocrates et par le stalinisme qu'elles ont perdu de leur valeur. L'idée d'une société débarrassée de l'exploitation capitaliste vit toujours et nous sommes fiers d'en être aujourd'hui les continuateurs et les défenseurs. Nous sommes des communistes parce que nous sommes convaincus que le capitalisme n'est pas un horizon indépassable de l'humanité. Nous sommes communistes parce que nous savons que les milliards d'hommes qui constituent la classe ouvrière n'ont aucun intérêt à conserver l'actuel système d'oppression et d'exploitation. Nous sommes communistes parce que la classe ouvrière représente une force immense de par son nombre et par sa place dans la production. C'est elle qui fait tout fonctionner. Quand elle s'arrête, plus rien ne fonctionne. C'est de là qu'elle tire sa force pour s'opposer à la puissance des capitalistes. Ce qui manque à la classe ouvrière, c'est la conscience de cette force. C'est dans les périodes de lutte que cette conscience peut s'acquérir à une large échelle. On l'a vu dans nos discussions de ce début d'après-midi sur mai 68. Sans aucun appel syndical national, à partir du 14 mai 1968, la grève est devenue générale parce que d'entreprise en entreprise, les travailleurs ont acquis la conviction que tous ensemble, ils représentaient une force immense. Et on a vu aussi que même quand les directions syndicales ont lâché le mouvement pour appeler à participer aux législatives avancées par De Gaulle, le mouvement a continué pendant plusieurs semaines parce que la classe ouvrière avait conscience que ce n'est pas dans les élections qu'elle est forte. C'est quand elle se manifeste avec son moyen de lutte traditionnel, la grève, dont le degré le plus élevé est la grève générale. Mais si en son sein, la classe ouvrière a trouvé des partis, des syndicats, pour lui expliquer qu'il fallait arrêter la grève pour se rendre aux urnes, elle n'a trouvé que trop rarement des militants, des travailleurs révolutionnaires pour l'aider à prendre elle-même en main la direction de ce mouvement. Et c'est ce qui explique qu'un mois de grève générale, même s'il a permis d'obtenir l'augmentation du SMIC de 35%, n'a pas permis d'aller aussi loin que beaucoup de travailleurs le souhaitaient et que cela était réellement possible. La classe ouvrière n'a pas que des revendications économiques à défendre. Elle est porteuse d'un autre projet de société. Une société qui serait dirigée par la majorité qui travaille au lieu de l'être, comme aujourd'hui, par la minorité de possédants. Quand la grève a l'ampleur qu'elle a pris en 1968, la lutte de la classe ouvrière devient forcément politique. Elle pose le problème du pouvoir et elle le pose sur le terrain de la lutte, là où elle est forte, contrairement au terrain électoral où les dés sont pipés en faveur de la bourgeoisie. C'est notre rôle, à nous, communistes révolutionnaires, d'aider la classe ouvrière à prendre conscience de cette force, d'aider dans les mouvements à ce qu'ils soient les plus démocratiques possibles, en permettant à tous ceux qui le souhaitent de participer à l'organisation de la lutte, de proposer des objectifs qui affaiblissent réellement le patronat et qui permettent aux travailleurs d'obtenir un meilleur rapport de force pour l'étape suivante de la lutte. C'est le sens des revendications que vous connaissez bien, parce que nous en faisons une propagande constante, comme le contrôle des comptes des entreprises ou l'échelle mobile des salaires. C'est le sens des mots d'ordre que nous mettons en avant aujourd'hui pour faire en sorte que l'ensemble de la classe ouvrière se sente solidaire du combat des cheminots et pour que, dans la lutte qui s'annonce, la classe ouvrière présente le front le plus large et le plus uni possible. Nous n'en doutons pas. La classe ouvrière sera capable de répondre aux attaques de la bourgeoisie. Le gouvernement prendra tôt ou tard la mesure de trop qui fera déborder le vase. Et c'est peut-être ce qui est en train de faire Macron. Mais ce jour-là, pour gagner, pour aller le plus loin possible, la classe ouvrière devra trouver à ses côtés des militants, des militantes, pour l'aider à s'organiser et à prendre en main ses propres affaires. La bourgeoisie a une armée de professionnels à son service, à tous les niveaux, politiques, administratifs, répressifs. La classe ouvrière a besoin aussi d'avoir des hommes et des femmes qui mettent leur expérience politique à son service. Un parti qui soit tout entier dans son camp et qui soit capable de défendre ses intérêts tant immédiats que politiques. La classe ouvrière a besoin d'un parti qui soit représenté dans un maximum d'entreprises par des militants porteurs des idées que j'expose ici. C'est notre tâche de travailler à sa construction, en faisant partager nos idées à un maximum de travailleurs. Chacun peut y apporter sa pierre en défendant autour de lui les idées de lutte de classe, les idées communistes révolutionnaires. Dans les batailles qui s'annoncent, nous avons deux objectifs. En premier lieu, faire reculer la bourgeoisie pour mettre les travailleurs en meilleure position pour les combats qui suivront. Et le deuxième objectif, c'est d'œuvrer avec tous les travailleurs conscients à la construction du parti communiste révolutionnaire qui fait aujourd'hui tant défaut à la classe ouvrière. Et pour ces objectifs, je nous souhaite à tous un plein succès.